Science CQFD, Natacha Trioux.
Elle est une légende vivante de la primatologie. Pour ce premier grand portrait, Jane Goodall est notre invitée. Chers primates auditeurs, nous avons la chance aujourd'hui de nous entretenir avec la plus importante spécialiste des chimpanzés au monde. Au départ autodidacte, la Britannique Jane Goodall a révolutionné l'étude des grands singes dans les années 60. Ses travaux ont bouleversé notre rapport à l'animal. À la fois icône et chercheuse, à 88 ans, elle continue toujours son combat pour les animaux et pour l'environnement. Jane Goodall, un singe, peut en cacher un autre. Jane Goodall, bonjour.
Hello.
C'est un très grand honneur de pouvoir nous entretenir avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout au long de cette heure, nous parlerons de vos travaux qui ont révolutionné les sciences naturelles et changé notre conception du monde animal. Nous parlerons également de votre engagement sans faille pour la protection de l'environnement. Votre vie entière est consacrée aux singes, à leur étude, leur compréhension et leur sauvegarde. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un déclic ? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes dit « je veux étudier et comprendre les grands singes » ?
Eh bien, quand j'avais 10 ans, j'ai décidé que j'irais en Afrique, vivre avec les animaux sauvages et écrire des livres sur eux. Et j'ai fini par y arriver. J'ai dû économiser et j'ai eu la chance de rencontrer le fameux paléontologue, le docteur Leakey, qui m'a proposé d'étudier les chimpanzés. J'aurais étudié n'importe quel animal en réalité, n'importe quel animal sauvage.
Alors, on va revenir sur le professeur Louis Leakey. Vous êtes né le 3 avril 1934 à Londres. Comment cette petite fille anglaise, comment ça lui vient ce désir de jungle, d'Afrique, ce désir d'animaux sauvages ?
Les livres que je lisais, je lisais Tarzan et les singes, je lisais tous les livres sur l'Afrique que je pouvais trouver et j'étais attirée tout simplement.
Dès l'enfance, vous êtes donc passionnée par la nature.
Eh bien, j'ai grandi dans une maison avec un grand jardin et j'y passais autant de temps que possible à observer les oiseaux, les écureuils, les insectes. Donc je suis née avec cet amour des animaux et j'avais envie de les étudier, d'apprendre des choses sur eux.
Alors votre première fois en Afrique, comment c'était ? Quelles ont été votre sensation de ce rêve d'enfance qui se réalise ?
Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas d'avion pour y aller. Alors j'y suis allée en bateau. Ça a pris à peu près un mois parce que le canal de Suez était fermé à cause de la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Égypte. Et le premier endroit où j'ai posé le pied sur le territoire africain, c'était le Cap. C'était magnifique. J'étais extrêmement enthousiaste. Mais ensuite, j'ai remarqué ces mots en afrikaner sur les portes des restaurants, en afrikaans, et qui disaient quelque chose que j'ai demandé à mon ami d'expliquer. Et en fait, ça disait « réservé aux Blancs ». Alors là, j'ai détesté le Cap. C'était au pic, au plus fort de l'apartheid. Et je refusais l'idée de juger les gens d'après la couleur de leur peau. Donc j'ai décidé de quitter le Cap et de continuer jusqu'à ce que j'arrive au Kenya. Et là, c'était très excitant de voir des girafes, de voir tous ces animaux de près, tous ces animaux dont j'avais rêvé enfant. C'était merveilleux.
Alors vous êtes une jeune femme dans les années 50, vous êtes partie seule à ce moment-là ? Est-ce que vous êtes soutenue ?
Sur le bateau, j'étais seule. Il n'y avait que moi. Mais j'allais retrouver une camarade d'école qui m'avait invitée sur la ferme de ses parents. C'est comme ça que je suis arrivée en Afrique. D'abord, grâce à cette invitation à venir séjourner au Kenya, et ensuite en travaillant très dur pour lever les fonds nécessaires pour me permettre de faire ce voyage.
Alors un mot sur votre parcours universitaire à ce moment-là. Où en êtes-vous, justement ?
Je n'avais pas été à l'université, nous ne pouvions pas nous permettre que j'étudie. Nous avions très peu d'argent suite à la guerre. Et heureusement, Louis Leakey a préféré quelqu'un qui n'avait pas été à l'université, parce que les gens qui étudiaient les animaux avaient une approche très réductionniste, ce que j'ai compris beaucoup plus tard. Ils voulaient quelqu'un qui ait un esprit sans préjugés.
Quand vous rencontrez le célèbre anthropologue Louis Liquet, est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre qui a été donc déterminante dans votre parcours ?
C'était très important. J'ai entendu parler de lui. Quelqu'un m'a dit, Jane, si tu t'intéresses aux animaux, il faut que tu rencontres Louis Leakey. À l'époque, il dirigeait le Muséum d'histoire naturelle de Nairobi. Et je suis allée le rencontrer. Je n'avais jamais entendu parler de lui, puisque je n'étais pas allée à l'université. Donc je ne connaissais rien à la paléontologie. Je suis allée le voir à l'université. Au musée. Et il m'a accueilli, il m'a fait faire le tour, il m'a posé énormément de questions. Et parce que j'avais tout lu sur les animaux africains, tout ce que je pouvais trouver, je crois qu'il a été impressionné. Et donc, il m'a d'abord embauchée comme une de ses secrétaires, en fait. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée entourée de toutes sortes de personnes qui pouvaient répondre à mes questions sur les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les insectes, les plantes. Donc j'étais au paradis.
Vous devenez donc l'assistante d'un des plus célèbres anthropologues de son temps. Qu'est-ce que justement vous apprend précisément Louis Leakey ?
Eh bien, il m'a laissé l'accompagner pendant une expédition dans une gorge très célèbre aujourd'hui, mais qui ne l'était pas à l'époque. Il n'y avait même pas de chemin pour rejoindre cet endroit et il était seul avec sa femme, Mary Leakey, et moi et une autre jeune Anglaise qui travaillait au musée et puis six Africains qui nous accompagnaient. C'était un endroit complètement magique, cette gorge. À l'époque, il n'y avait que des animaux. Et donc, quand on nous a laissé nous reposer après la journée passée à fouiller pour trouver des fossiles, un soir, nous sommes tombés sur un rhinocéros. Un soir, d'autres animaux. Ils étaient partout, les animaux. Et je pense que c'est parce que Leakey a pensé que j'avais bien réagi quand je suis tombée sur un rhinocéros et quand je suis tombée face à un lion. Je crois que c'est là qu'il a décidé de me proposer cette opportunité qui était d'aller étudier les chimpanzés. Il ne s'intéressait pas qu'aux fossiles, il s'intéressait aux liens entre, par exemple, les antilopes, les fossiles d'antilopes et les antilopes qui vivaient à ce moment-là. Il voulait découvrir des choses sur les animaux vivants et pas uniquement sur les animaux de l'histoire qu'il voyait au travers des fossiles. Et il pensait qu'il y avait un lien entre les humains et les singes et qu'il y avait un ancêtre commun il y a 6 millions d'années, ce que tout le monde sait aujourd'hui. Il pensait que les chimpanzés s'étaient à partir de ce moment-là développés sur leur propre trajectoire évolutive et les humains de leur côté. Donc ce qui intéressait surtout Louis Leakey, c'était les premiers humains. Et il voulait mieux comprendre comment ils pouvaient se comporter. Il pouvait dire à quoi ils ressemblaient grâce aux fossiles qu'ils trouvaient. Mais il voulait dire que les comportements des chimpanzés d'aujourd'hui pouvaient être similaires à des comportements humains et cela pouvait provenir de cet ancêtre commun. Et c'était ce qu'il pouvait relier cette recherche au crâne de ces premiers humains et qu'il trouvait. C'est aujourd'hui ce dont tout le monde est convaincu.
Oui, donc selon Louis Leakey, pour Louis Leakey, étudier les grands singes nous permettrait à mieux comprendre les comportements de nos ancêtres préhistoriques. Mais ça veut dire qu'à cette époque, en 1957, nous n'avions jamais fait d'études de terrain sur les grands singes.
1960, c'est l'année où j'ai commencé. Personne n'avait étudié les chimpanzés sauvages. J'étais la première.
On n'étudiait que des animaux captifs ?
Il y avait quelques études sur des chimpanzés en captivité. La meilleure avait été faite par un psychologue autrichien, Wolfgang Kohler, qui a étudié un groupe de chimpanzés captifs à Tenerife. Ce qui est amusant d'ailleurs. Tenerife, comment ils avaient atterri là-bas ? C'est une bonne question, mais en tout cas, ils étaient là-bas. Il a écrit un livre merveilleux sur la mentalité des grands singes. La meilleure étude qui existait à l'époque sur les chimpanzés.
Donc ça signifie que avant votre premier terrain d'étude en 1960, avant 1960, on ne sait rien ou presque des grands primates, des grands singes dans leur milieu naturel.
On savait quelque chose sur les gorilles, puisqu'il y avait eu une étude réalisée 2 ans avant la mienne. Mais rien sur les chimpanzés. Pas une miette d'information. Personne ne les avait jamais observés dans la nature.
Alors comme l'américaine Diane Fossé, qui est spécialiste des gorilles, et la canadienne Birute Galdikas, spécialiste des orang-outans, vous avez donc été choisie par le célèbre anthropologue Louis Sliquet pour effectuer une étude de terrain sur le long terme, sur les grands singes. On vous a d'ailleurs surnommé toutes les trois les Leakey's Angels ou les Trimates. Est-ce que... Leakey, vous savez pourquoi Leakey vous a sélectionné?
Leakey m'a choisi en premier, ensuite Diane Fossé et ensuite Birute.
Il vous a choisi parce que vous étiez des femmes qui n'étaient pas issues d'un milieu universitaire, qui n'a pas été formaté par des études scientifiques.
Il pensait que les femmes pourraient être plus patientes et donc être de meilleures observatrices sur le terrain. La seule qui avait un diplôme, c'était Birute. Elle avait été à l'université. Diane Fossé était physiothérapeute, était kiné.
Et vous, votre absence de bagage scientifique, justement, ça a été un atout dans cette histoire.
Oui, c'était un avantage. Parce que Leakey ne voulait pas que mon esprit soit influencé par les approches extrêmement réductionnistes de ceux qui étudiaient les animaux à l'époque. Quand j'ai fini par aller à Cambridge pour étudier les chimpanzés pendant 2 ans, on m'a dit, à mon plus grand désarroi, que je n'aurais pas dû donner de nom, de prénom aux chimpanzés et que je ne pouvais pas parler de leur personnalité ou de leur esprit ou de leur émotion parce que ça, c'était spécifique aux humains et que je ne pouvais pas non plus avoir d'empathie envers eux parce que je devais être totalement objective. Leakey avait réussi à me trouver une place à l'université de Cambridge pour faire un doctorat. Il m'a dit que je n'avais pas le temps de faire un diplôme de master avant une maîtrise. Et donc, j'ai été très choquée de rencontrer ces professeurs érudits. Mais heureusement, j'avais eu un formidable professeur quand j'étais enfant. Et j'ai compris que ces professeurs universitaires avaient tort. Et ce fameux professeur de mon enfance, c'est mon chien, Rusty. On ne peut pas partager sa vie de façon réelle avec un autre animal sans comprendre qu'ils sont des êtres à part entière avec une personnalité et des émotions.
Alors par rapport au prénom, il faut rappeler en effet qu'à l'époque, les scientifiques donnent des numéros aux animaux.
Oui. Donc il n'y aurait pas eu de David Greybeard, etc. Tous ces noms que les gens connaissent aujourd'hui, ceux de ces animaux. Personne ne serait souvenu d'un numéro 15 ou d'un numéro 10.
David Greybeard, vous l'évoquez, c'est un singe qui a été très important pour vous.
C'est le premier qui m'a laissé approcher un peu. Le premier à s'être départi de sa peur. Pendant les 4 premiers mois, il s'enfuyait. Et je n'avais d'argent que pour rester 6 mois. C'était très dur pour Leakey de lever des fonds pour une jeune fille qui n'était pas allée à l'université pour l'envoyer dans la forêt, dans la jungle. C'était inouï.
C'est-à-dire qu'à cette époque, vous arriviez aussi sur un terrain d'étude avec une méthode scientifique qui n'existe pas. Vous avez dû inventer une méthode pour approcher les chimpanzés. Vous êtes à ce moment-là en 1960 au Kenya. Comment vous inventez justement cette méthode d'approche ?
Cette méthode, c'est celle que j'avais quand j'observais les oiseaux, que je regardais les oiseaux construire leur nid, les œufs éclore et les parents nourrir leurs petits, la même chose avec les écureuils, tout simplement en restant extrêmement silencieuse et discrète. Et j'ai fait la même chose, je ne voyais pas comment faire autrement. Par exemple, je voyais un arbre avec de jolis fruits. et je savais que les chimpanzés allaient s'y nourrir, alors j'y allais, je m'installais assez loin, très discrètement, très silencieusement, en portant la même couleur de vêtements chaque jour. Et peu à peu, en particulier grâce à David Graybird, ils ont cessé d'avoir peur. Et j'ai pu m'approcher et j'ai pu commencer à reconnaître les différentes personnalités.
Il a fallu donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience à ce moment-là.
Oui, j'ai dû être très, très patiente. Mais j'avais toujours été très, très patiente.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Vous écoutez France Culture et l'éthologue, primatologue et anthropologue Jeanne Goudal, la grande spécialiste des chimpanzés. Alors comme vous le dites, il vous a fallu un peu de temps avant de commencer à approcher les singes. Est-ce que ça n'a pas été décourageant ou désespérant à ce moment-là ?
Je savais qu'en prenant mon temps, je finirais par y arriver. Mon inquiétude, c'était que le temps filait, justement. Mais heureusement, au début du cinquième mois, il ne m'en restait donc seulement deux, j'ai vu David Graybird utiliser un petit morceau de bois pour une petite branche pour aller pêcher des termites en enlevant les feuilles de sa branche pour fabriquer un outil pour pêcher les termites. À l'époque, les scientifiques pensaient que seuls les humains fabriquaient des outils. On décrivait l'humain comme, justement, le créateur d'outils. Et quand j'ai expliqué à Licky ce que faisait David Graybird, il m'a dit « Ah, maintenant, nous allons devoir trouver des outils, une autre définition du rôle des outils dans l'humanité ou accepter que les chimpanzés sont des humains ». Et c'est ça qui a intéressé le National Geographic, la société du National Geographic, qui a accepté de nous financer, de nous apporter plus d'argent quand on est arrivé au bout des 6 mois. Là, j'ai su que j'avais du temps devant moi, et c'est là que j'ai pu peu à peu découvrir le comportement, comprendre le comportement des chimpanzés.
Démontrer que l'utilisation d'outils n'est pas le propre de notre espèce, ça c'est une révolution copernicienne en éthologie. Cette découverte que les chimpanzés peuvent fabriquer, se servir d'outils, vous, quand vous observez ça la première fois, quelle est votre réaction ? C'est une découverte majeure, comment vous réagissez ?
Eh bien, je savais, c'est extrêmement excitant. Je connaissais la position de la science là-dessus. Je n'ai pas été surprise parce que l'étude dont je vous ai parlé de Kola sur la mentalité des grands singes, il avait découvert que les chimpanzés utilisaient des outils d'une manière très imaginative. Mais les autres scientifiques avaient rétorqué que c'était parce que ces chimpanzés étaient au contact d'humains et qu'ils avaient appris les comportements au contact des humains et les imitaient. Je n'y croyais pas. Donc je n'étais pas surprise en réalité de voir un chimpanzé utiliser des outils, mais très excitée parce que je savais que maintenant la science allait devoir croire que les chimpanzés étaient capables de fabriquer des outils.
Alors comment justement avez-vous présenté vos résultats ?
J'ai écrit un article pour un magazine scientifique, pour la revue Nature, sur l'utilisation des outils pour les chimpanzés. Et j'ai osé suggérer que probablement, dans différentes régions d'Afrique, les chimpanzés utiliseraient différents outils. Parce que j'ai vu et observé de près ce que faisait leur mère, et j'ai vu que les petits observaient leur mère pour l'imiter. Et c'est la définition d'une culture, l'idée qu'un comportement est transmis d'une génération à la suivante par l'observation et l'imitation. Donc, je posais l'hypothèse, je devinais que les chimpanzés de différentes régions pouvaient avoir des cultures différentes. Et les autres scientifiques étaient bien sûr choqués, car la culture était spécifique aux humains. Eh bien, au final, on s'aperçoit que beaucoup d'autres animaux ont également une culture.
Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au départ, en tout cas, vos travaux rencontrent des critiques, l'accueil est mitigé ?
Oui.
Alors, vous faites en Tanzanie la plus longue étude de terrain d'animaux sauvages. Vous observez donc, vous faites cette découverte majeure. On peut rappeler quand même vos conditions de travail. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet environnement naturel dans lequel vous avez passé énormément de temps ?
Eh bien, quand j'ai commencé, quand j'y suis allée pour la première fois en 1960, c'était toujours le régime colonial britannique. La Tanzanie d'aujourd'hui était le Tanganyika à l'époque. Et les autorités refusaient de permettre à une jeune Anglaise sans formation universitaire de partir seule dans la forêt. Mais ils ont fini par accepter à condition que je n'y aille pas seule. Et la personne qui s'est portée volontaire pour passer 4 mois avec moi dans cette forêt, c'est cette même formidable mère qui m'avait soutenue quand j'avais 10 ans et que je rêvais d'aller en Afrique. Et à nous deux, nous avions une petite tente d'occasion, une tente de l'armée, tout à fait primitive. Nous avions quelques draps et une moustiquaire. Et ça me convenait très bien. J'étais dans les montagnes chaque jour, mais ma mère restait dans cette tente. Elle essayait de bien la fermer avec du scotch, mais les serpents et les araignées réussissaient parfois à rentrer, et les babouins aussi, contrairement aux chimpanzés qui sont beaucoup plus opportunistes, sentaient immédiatement cette nouvelle source de nourriture. Donc ils ont commencé à nous voler de la nourriture dans la tente. Et nous étions obligés de tout conserver dans des boîtes fermées. Le village le plus proche avait dit que 2 femmes anglaises ne pouvaient pas rester seules et donc il nous fallait un homme africain, un cuisinier. Il l'avait choisi pour nous et c'était un cuisinier formidable, mais il avait la mauvaise habitude de boire beaucoup d'alcool. Et en 2 semaines, il a découvert un alcool très puissant fabriqué à partir de bananes fermentées. Donc j'étais là à vivre mon rêve dans la montagne pendant que ma mère restait au camp avec des babouins, des serpents, des araignées et un cuisinier légèrement ivre. Donc la plus courageuse des deux, c'était elle. Mais voilà, nous avions une tente, nous avions un trou creusé dans le sol en guise de latrine, nous avions un minuscule petit fourneau dans lequel une petite casserole dans laquelle le cuisinier pouvait faire bouillir de l'eau. Et nous avions un tout petit bateau avec un petit moteur. Et c'était notre seul lien avec le village voisin, ce village minuscule qui était le plus proche et qui était à 15 kilomètres. Donc c'était très primitif comme condition. La nourriture qu'on arrivait à obtenir du village, mais aussi beaucoup de conserves, principalement que nous avions emmenées avec nous, du corned beef, etc. Mais le cuisinier était capable de faire du très bon pain. Donc c'était des conditions très spartiates.
Alors dans ces conditions spartiates, vous avez donc réussi à vous faire accepter des chimpanzés au fur et à mesure. Vous décrivez votre expérience et vos méthodes dans « Les chimpanzés et moi », un livre passionnant paru chez Stock en 1971. Je vous propose une lecture.
Lorsque j'entendis les pas résolus qui approchaient derrière moi, je m'étendis à plein ventre et je ne bougeais plus, car il arrivait souvent que les grands singes, s'ils m'apercevaient sur leur route de ravitaillement, se ravisaient et allaient s'alimenter ailleurs. Ce jour-là, les pas avancèrent puis s'arrêtèrent soudain. J'entendis un léger « ouh » appel d'un individu inquiet, un peu craintif. J'avais été repéré. Je demeurai immobile. Bientôt, les pas se rapprochèrent. Puis je compris qu'un chimpanzé se mettait à courir pour franchir quelques mètres et à cette course succéda un grand cri. Je vis soudain un gros mâle grimper à un arbre qui se trouvait tout près. Se déplaçant dans les branches au-dessus de ma tête, il se mit à crier en émettant des sons brefs, bruyants, aigus, avec sa bouche ouverte. Je regardai fixement sa face sombre et ses yeux bruns. Il commença à descendre et il ne s'arrêta que lorsqu'il fut à 3 mètres de moi. Je vis ses dents jaunes, et à l'intérieur de sa bouche, le rose de sa langue. Il secoua une branche, m'arrosa de brindilles, puis il frappa le tronc et agita de nouvelles branches tout en continuant de hurler. Visiblement, il se laissait emporter par un accès de rage. Mais tout à coup, il sauta à terre et disparut. Ce fut alors que j'aperçus une femelle avec un tout petit bébé et un enfant plus âgé qui étaient tous trois assis sur un autre arbre et me contemplaient avec des yeux écarquillés. Ils se taisaient et ne bougeaient pas. J'entendis le vieux mâle remuer derrière moi, puis s'immobiliser. Il était si proche que je percevais son souffle. Tout cela avait l'air parfaitement irréel.
Si proche que vous percevez son souffle. Jeanne Goudal, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on échange avec un animal sauvage ?
Eh bien, nous ne communiquons pas exactement. Nous essayons de communiquer le fait que nous ne représentons pas un danger. Je ne communiquais pas directement avec eux, ce n'était pas mon intention. Ce que je voulais, c'était découvrir comment eux communiquaient entre eux.
Et alors ?
Ma seule communication dirigée vers eux, c'était simplement de leur faire comprendre que je n'étais pas une menace. Je suis venue à faire partie de leur environnement et ils ont cessé de se soucier de ma présence.
Et alors, qu'avez-vous découvert précisément sur la communication des singes ?
La même chose que nous, ils s'embrassent, ils se parlent, ils se tiennent par la main, ils se réconfortent. Ils demandent en tendant la paume, les hommes montrent leur domination en donnant des coups de poing, en roulant des mécaniques. Non seulement ils utilisent des brindilles, des bâtons comme outils, mais ils utilisent aussi des cailloux, des pierres comme armes aussi.
Vous avez prolongé vos recherches jusque dans les années 90 et vous avez fait de nombreuses découvertes en vous montrant que les chimpanzés sont des animaux culturels.
Oui, et ils peuvent être très agressifs, ils peuvent parfois se faire la guerre, ils peuvent aussi être très doux et très altruistes. Donc, un individu donné peut parfois adopter un bébé qui a perdu sa mère, même s'il n'est pas apparenté. Ils sont comme nous, par bien des aspects.
Alors ce qui est important aussi de remettre en perspective, c'est que vos travaux, Jeanne Goudal, ont eu des conséquences sur de nombreuses études portant sur les singes, mais aussi sur un grand nombre d'animaux, les corbeaux, les baleines, les pieuvres.
Peut-être, je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai eu une influence sur ces travaux, mais c'était la première étude de ce genre. Il n'y a que deux autres études aussi longues qui ont été menées sur des animaux, l'une sur des loups aux États-Unis et une autre sur des singes au Japon. Ce sont les deux autres études de longue durée qui ont été menées.
Ce qu'il y a d'important dans cette histoire des sciences, c'est que grâce à vos travaux, on s'est mis à penser différemment le rapport entre l'humain et les animaux.
Oui, j'aime penser que parce que les chimpanzés sont nos parents les plus proches, et aussi grâce à Hugo Van Lau qui était du National Geographic et qui est devenu mon premier mari et qui était réalisateur, le fait qu'on ait pu les montrer, ces chimpanzés, et qu'on ait pu montrer l'importance de l'apprentissage chez les jeunes chimpanzés, ce film qui a permis de documenter mes recherches, je pense que ça a vraiment commencé à changer l'approche scientifique des animaux et ça a permis d'initier une acceptation progressive que les animaux, et pas seulement les chimpanzés, les baleines, les loups, mais jusqu'aux poulpes ou toutes sortes d'espèces, les animaux ont des sentiments et ressentent la douleur. Au début, ce n'était pas du tout reconnu. Et même beaucoup plus récemment, en 1960, les gens pensaient encore que les enfants humains, les bébés humains ne ressentaient pas la douleur. Ça paraît incroyable. Quand ils pleurent, alors, qu'est-ce qu'ils font ?
Vous parlez de National Geographic. Ça, c'est quelque chose de très important également dans votre histoire et dans vos travaux. c'est que là, il y a là tout un travail d'archives, de films, d'images qui est transmis au grand public, et ça aussi, c'est quelque chose de très moderne.
Nous avons maintenant tous les enregistrements scientifiques réalisés à Gombe par tous les étudiants qui ont pu se succéder là-bas. Nous avons tous ces enregistrements sur le long terme qui se trouvent aujourd'hui à l'Université d'Arizona et qui va être disponible pour les étudiants du monde entier.
Cette médiatisation de vos travaux, ça a eu un rôle important également pour la sauvegarde et le soutien de vos recherches.
Oui, tout à fait.
Au départ, comment vous viviez la présence justement de photographes ou d'équipes qui sont venues accompagner vos travaux ?
Eh bien, ça ne me plaisait pas. Au début, il n'y avait qu'un homme, Hugo. Il n'avait pas d'autres équipes avec lui. Il aimait les animaux autant que moi. Donc, même si je n'aimais pas beaucoup être filmée, je savais que c'était très important parce que je voulais partager ces connaissances que je développais sur ces animaux avec le grand public. Et c'est à cette époque, alors que les scientifiques n'étaient pas censés s'adresser au public, que je voulais faire ça. Quand le National Geographic a publié mon premier livre, on nous avait donné de l'argent et j'avais promis que j'écrirais un livre. Le livre est sorti, j'étais encore à ce moment-là à l'université de Cambridge et j'ai failli être expulsée. Aujourd'hui, les scientifiques écrivent beaucoup de livres pour le grand public. C'est aussi une manière de lever de l'argent pour les recherches. Mais à l'époque, les scientifiques ne devaient pas transmettre d'informations au grand public.
Oui, c'était mal vu.
En tout cas, c'est ce que disaient les scientifiques. Mais moi, j'avais un conseiller formidable, un directeur de thèse, qui a dit « Pourquoi il devrait-il y avoir un problème, puisque si tout ce que tu écris est juste et que tu n'inventes rien ?» Je n'ajoutais rien, je ne fabriquais rien, j'écrivais ce que je voyais. Et exactement comme je le faisais dans mes travaux scientifiques.
Écoutez France Culture et Kilwa Jazz Band, Muungano, Tanzania. Car nous sommes en Tanzanie, dans les années 70, au moment où Jane Goodall fait ses découvertes sur les chimpanzés. Jane Goodall avec qui nous avons le plaisir de nous entretenir tout au long de cette heure. Alors il y a un paradoxe, c'est qu'au moment
où on comprend, grâce à vos travaux, que les grands singes, ce sont les animaux les plus proches de nous. À ce moment-là, Jane Goodall, il y a aussi cette menace de la disparition, que les singes risquent de disparaître.
Well,
D'un point de vue biologique, nous partageons 98,6% de notre ADN avec eux.
Et nos plus proches parents sont menacés d'extinction si on ne fait rien.
Continuons comme ça. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que les chimpanzés sont plus intelligents que ce que nous pensions, et c'est le cas d'autres animaux. Mais il n'y a pas d'autre animal que l'animal humain qui ait été capable de créer une fusée pour aller sur la planète Mars avec un robot pour prendre des photos. Il n'y a pas d'autre animal qui ait créé Internet. Donc c'est tellement étrange que l'animal le plus intellectuel, le plus intelligent qui ait jamais arpenté la planète, soit en train de détruire sa propre maison. Nous sommes face au changement climatique, à l'extinction de la biodiversité, nous avons une pandémie. Et voilà ce que nous récoltons en manquant de respect à notre monde.
Sur l'extinction de la biodiversité, vous lancez des alertes depuis des décennies. On écoute à ce propos vos mots en 1990 sur les menaces qui pèsent sur les singes.
In Africa, the situation is really very grim because where chimpanzees used to roam through 25 nations in Africa,
la situation est très alarmante parce que là où autrefois les chimpanzés vivaient dans 9 pays, ils ont carrément disparu dans 4 et il n'en reste plus que dans 5 à peu près. Ils ne sont en bonne santé que dans 4 pays à peu près. La situation est vraiment très très alarmante. La destruction de l'habitat, avant tout, l'explosion de la démographie. En second, et aussi les coupes importantes dans la forêt, donc disparition de l'habitat.
And in addition, mothers are shot so that their infants can be stolen from them.
Les mères, aussi le trafic qui prend des proportions effrayantes, on tue les mères, des mères chimpanzées dans les arbres pour récupérer les petits qui sont vendus par des trafiquants, parfois pour servir d'animaux de compagnie et d'autres fois, la plupart du temps, pour aller soit vers en captivité, très souvent pour la recherche médicale.
This is not only very cruel. But it's also very wasteful because we estimate that for every baby.
Non seulement c'est quelque chose de terriblement cruel, mais en plus il y a un gâchis monstrueux parce que pour un bébé récupéré pour le trafic, 10 meurent environ.
The babies cannot survive without their mothers.
It's very hard and many of them will die without their mothers. The people don't understand what they need and it's not just the food. It's also that these babies need their mother's love and reassurance and protection.
Alors aujourd'hui, si rien n'est fait, d'ici 25 à 50 ans, entre 60 et 75% des populations de primates sont menacées d'extinction. Jane Goodall, est-ce qu'on peut rappeler les menaces qui pèsent sur les primates ?
Well, it's not just apes, it's us as well.
Ce ne sont pas seulement les primates, c'est nous également. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ces tempêtes, ces ouragans terribles et ces incendies et ces sécheresses et ces vagues de chaleur, ces inondations, canicules. Quand on réfléchit à cette idée stupide qui voudrait qu'il peut y avoir un développement économique sans limite sur une planète dont les ressources sont limitées, quand on croit qu'on peut trouver un moyen pour la nature de se régénérer, nous sommes aujourd'hui 7,2 milliards d'humains, quelque chose comme ça, et on estime qu'en 2050, on sera plus proche de 10 milliards. Alors qu'est-ce qui se passera si on continue à faire comme d'habitude? Nous devons trouver une autre manière d'habiter cette planète en harmonie avec la nature. Sinon, ce ne sont pas seulement les primates qui vont disparaître, ce sont tous les animaux, et nous compris. Certains scientifiques pensent que nous sommes allés trop loin pour revenir en arrière. Certains scientifiques pensent qu'il est déjà trop tard, que nous sommes condamnés. Je pense qu'il nous reste une fenêtre de temps, mais elle est en train de se refermer. Et nous devons nous rassembler et agir pour prendre une autre direction.
Alors, agir, vous le faites. Hein. En 1977, vous créez le Jane Goodall Institute pour la protection de la biodiversité, l'aide au développement durable et l'éducation environnementale. À partir de quel moment vous avez eu envie de renforcer vos actions pour la sauvegarde des singes et de l'environnement?
1986, je suis allée à une grande conférence que j'ai participé à organiser, qui rassemblait des scientifiques. Il y avait à l'époque 6 recherches menées un peu partout en Afrique. Et nous avons eu des conférences autour de la protection, de la conservation de l'environnement. Et c'était terrible de voir les photos de l'environnement naturel des chimpanzés qui disparaissaient des forêts et les signes que la population de chimpanzés était en train de diminuer. Quand je suis sortie de cette conférence, j'étais devenue une activiste. Donc je suis allée étudier les chimpanzés dans d'autres régions d'Afrique pour mieux comprendre ce qui leur arrivait. Et j'ai aussi compris la terrible détresse des populations humaines qui vivaient à proximité de ces chimpanzés. La pauvreté, l'expansion démographique, l'appauvrissement des terres. En 1960, quand j'avais commencé, la zone où j'étais faisait partie d'une grande forêt équatoriale qui s'étendait tout autour de l'Afrique, tout le long de l'équateur. Mais en 1986, quand j'ai pris ce vol pour aller vers cette conférence, cette forêt était devenue un petit îlot autour de laquelle vivaient toutes sortes de populations qui coupaient ces arbres pour essayer de se nourrir, pour planter des cultures vivrières ou pour gagner de l'argent en plantant du tabac, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que si on ne trouvait pas de moyens de survivre sans détruire notre environnement, on ne pourrait sauver ni les chimpanzés, ni les grands singes, ni personne. En 1984, il m'avait fallu un peu de temps pour obtenir des financements parce que c'était quelque chose d'assez nouveau encore. En 1994, pardon, j'ai obtenu des financements de l'Union européenne. Nous étions ces petits blancs arrogants qui allaient dans les villages autour de Gombe pour leur dire ce qu'il fallait faire. Alors nous avons fait autrement. Nous sommes allés écouter les anciens dans les villages et nous leur avons demandé à eux ce que nous pouvions faire pour améliorer leur vie. Et c'est là où nous avons commencé à travailler sur les cultures vivrières, sur l'éducation, en travaillant avec les autorités locales et en développant des programmes, des bourses pour que les filles puissent accéder à l'éducation, parce qu'on a démontré partout dans le monde que l'éducation des femmes permet aussi de réduire la taille des familles. Donc nous avons fait du planning familial. Nous avons également mis en place du microcrédit pour que les hommes et les femmes puissent créer leurs propres petites entreprises respectueuses de l'environnement. Ce programme fonctionne extrêmement bien. Ça leur permet d'accéder à des prêts plus importants. Ça permet aux personnes de sortir de la pauvreté. Et ils comprennent que l'impact qu'ils ont sur l'environnement n'est pas seulement l'impact sur le règne animal, mais aussi sur leur propre avenir. Et c'est comme ça que ces personnes deviennent des partenaires de nos efforts de conservation. Et nous avons tous ces programmes en parallèle de l'étude des chimpanzés.
Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, un ou une scientifique qui s'intéresse au monde sauvage, à l'environnement, peut-il, peut-elle séparer son travail de recherche d'une démarche plus activiste?
Eh bien, il y a des gens qui essaient. Mais je crois que s'ils ne s'intéressent qu'aux observations scientifiques, peut-être ils peuvent y arriver, mais s'ils se soucient ne serait-ce qu'un minimum de l'espèce qu'ils étudient ou de l'environnement qu'ils étudient, ils ne peuvent pas ne pas également s'engager dans la protection de cet environnement. Et en tout cas, intégrer une dimension de conservation dans leur programme. Et bien sûr, Ce qu'il y a aussi, c'est à quoi ça sert tout ce travail, si ce n'est pas à aider les gens à améliorer la situation de la prochaine génération. Donc ces programmes, je les ai lancés pour les jeunes. Et j'en ai lancé un en 1991, un programme qui s'appelle Roots and Shoots, donc semences et bourgeons, qui existe partout dans le monde. C'est un programme qui consiste depuis la maternelle jusqu'à l'université à montrer aux jeunes à partager ce message de l'impact des humains sur la planète chaque jour. Chaque groupe qui participe au programme peut choisir 3 projets pour améliorer la situation des humains, du monde et des animaux, parce que tout ça, c'est lié. Nous avons commencé par 12 groupes en Tanzanie et ce programme existe aujourd'hui dans 65 pays. Et ce sont ces jeunes qui vont faire la différence.
Alors depuis en 1986, vous êtes engagé dans la création de sanctuaires pour les animaux, de sanctuaires à chimpanzés. En quoi cela consiste, Jeanne Goudal ?
Ça a commencé quand j'étais à Kinshasa, au Congo. Il y avait un petit chimpanzé dont la mère avait été abattue et qui était vendu comme animal domestique sur le marché. Il devait avoir 1 an et demi, il était recroquevillé au fond d'une cage, entouré de grands Congolais hilares. Et je savais que je ne pouvais pas l'acheter parce que c'était une manière de perpétuer ce terrible trafic de faune sauvage. Mais je suis parvenue à alerter l'ambassadeur américain qui a parlé au ministre sur place et j'ai pu retourner au marché le soir même avec la police et sauver, récupérer ce chimpanzé. C'est le premier que nous avons sauvé et nous avons créé des sanctuaires. Il n'y en a que nous ne gérons plus aujourd'hui, ce qui est très bien parce que ça coûte très cher, mais nous gérons toujours le plus grand qui est au Congo et qui contient 200 chimpanzés aujourd'hui, accueille 200 chimpanzés aujourd'hui. Et il y en a un également en Afrique du Sud aujourd'hui qui est réservé aux animaux domestiques qui ont été confisqués. Et la plupart de ceux qui sont au Congo, de ces chimpanzés, ce sont des bébés dont les mères ont été abattues par des braconniers pour servir de viande de brousse.
Il y a une vidéo qui a fait le tour du monde, qui date de 2013 et qui m'émeut à chaque fois que je la regarde. On vous voit relâcher une femelle chimpanzé dans son milieu naturel. Et on voit ce chimpanzé, cette femelle chimpanzé sortir de sa cage, observer son environnement, puis elle monte sur sa cage et elle vous serre dans ses bras.
Oui, ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que c'était le premier jour que je rencontrais Wunda. Un mot qui, dans la langue locale, signifie qu'elle est la personne qui est passée tout près de la mort. Ce chimpanzé était passé tout près de la mort et des vétérinaires avaient réussi à la sauver. Je ne l'avais jamais rencontrée, c'était la première fois. Et donc même si j'étais assis à côté d'elle dans notre bateau où elle était dans sa petite cage de voyage, il y avait d'autres personnes qu'elle connaissait. Mais elle devait bien se demander ce qui lui arrivait. Et donc j'essayais de la rassurer. Et c'est vrai que j'ai un lien facile, une connexion avec les animaux, une forme de télépathie avec eux. En tout cas, personne n'a été plus surpris que moi. C'était moi la plus surprise quand elle est venue me donner ce formidable câlin. Et je suis toujours émue moi aussi quand je vois cette vidéo.
Oui, parce que quand on voit ce geste,
c'est une des choses les plus merveilleuses qui me soit jamais arrivée.
Ce câlin-là avec Wunda.
Symboliquement, c'était comme si Wunda me disait merci pour tous les chimpanzés dont nous avions sauvé la vie.
Alors Jeanne Goudal, aujourd'hui, vous êtes aussi une icône pour de nombreuses personnes. Comment on gère cette double casquette entre une icône et une chercheuse scientifiquement mondialement reconnue ?
Eh bien, il y a deux Jane, celle qui vous parle aujourd'hui depuis la maison où j'ai grandi, avec ma famille, juste une humaine ordinaire. Et puis, il y a l'icône qui a été imaginée par le National Geographic et qui s'est développée avec toutes ces émissions de télévision. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un des États-Unis qui me disait qu'il était impressionné par ce statut de star, et je lui ai expliqué que moi aussi, je suis très impressionnée par l'autre Jane. Ce n'est pas quelque chose que j'ai programmé au début, ça ne me plaisait pas du tout. Et maintenant, je vois ça comme une manière de toucher les gens. Donc j'ai développé cette autre Jane, mais ce n'était pas quelque chose que j'avais cherché au départ.
Cette autre Jane, c'est aussi une Jane Goodall qui a depuis cet été une poupée Barbie à son effigie. Ça, c'est quelque chose d'important qui participe à l'éducation, selon vous ?
Vous savez, je suis très fâchée, en fait, au sujet de cette Barbie, parce que je voulais que les petites filles du monde entier puissent avoir accès à cette Barbie et puissent découvrir le monde des animaux et le monde des grands singes. Et je viens de découvrir qu'en fait, ils en ont fait une petite série limitée, mais qu'ils n'en fabriqueront plus d'autres. Donc, je vais trouver une autre entreprise pour faire une autre poupée Jane, peut-être plutôt une peluche, pour que toutes les petites filles du monde entier puissent avoir accès à cette poupée Jane.
Quel message ça envoie, ça, justement, aux petites filles ?
Pour les petites filles, c'est un message qui dit qu'il y a tellement de personnes qui m'ont remercié et qui m'ont dit « parce que tu l'as fait, je pense que je peux le faire aussi, quel que soit mon rêve ». Ma mère m'a dit « si tu veux vraiment réussir à faire quelque chose comme ça, tu vas devoir travailler très dur et tu vas devoir saisir toutes les opportunités que tu peux. Mais si tu n'abandonnes pas, tu trouveras un moyen de réaliser ton rêve. » Et c'est ça que je dis aux jeunes partout dans le monde, en particulier dans les communautés les plus désavantagées. Moi aussi, j'ai été rationnée. J'ai grandi pendant la guerre. Nous ne gaspillions jamais rien. Je crois que nous avions un œuf par semaine. Alors, je suis heureuse d'avoir réussi à découvrir le monde, mais je ne tiens jamais les choses pour acquises. Et je connais la valeur des choses. Alors que les enfants en Occident, aujourd'hui, s'attendent à ce que l'eau coule toujours du robinet et que la nourriture soit toujours sur la table. Ils sont habitués à presser un bouton, à appuyer sur un interrupteur et la lumière s'allume. À l'époque où j'étais enfant, nous ne tenions pas ces choses-là pour acquises.
Vous avez conscience que vous avez également été un modèle pour une génération de chercheuses femmes dans un milieu scientifique qui est réputé pour être plutôt masculin.
Oui, j'en ai conscience parce que les gens n'arrêtent pas de me le dire.
Par rapport à l'héritage ou par rapport aux jeunes primatologues, aux jeunes générations de primatologues, pour qui vous avez pu être un modèle ?
Oui, je sais. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils faisaient ça à cause de moi. Que ce soit des scientifiques, des gens qui travaillent sur le terrain, dans des réserves ou des parcs naturels, ou des vétérinaires spécialisés dans la vie sauvage. Ils me disent « Ah, bah, c'est parce que vous êtes venu dans mon école, c'est parce que j'ai participé à Roots and Shoots et ça a changé ma vie. » Je reçois ce genre de messages tous les jours. Encore ce matin, je parlais à un journaliste de presse en Corée du Sud, une journaliste qui m'interviewait et qui, à la fin de la conversation, m'a dit « Vous savez, Dr. Goodall, vous avez changé ma vie aujourd'hui. Je vais faire les choses différemment maintenant. Merci. »
Dans le livre de l'espoir paru l'année dernière chez Flammarion, Jane Goodall, vous écrivez « J'ai la conviction absolue que tout peut changer ».
Oui, ça peut changer. Mais seulement si nous parvenons à convaincre suffisamment de personnes à œuvrer pour le changement. Ça ne va pas arriver comme ça. C'est pour ça qu'il faut être plus actif et faire davantage d'efforts. Quand vous avez passé 80 ans comme moi, vous savez combien d'années il vous reste. Et si les gens perdent espoir, ils deviennent apathiques et ils ne font rien. Donc il faut donner de l'espoir aux gens. Et l'espoir aujourd'hui, ce sont surtout les jeunes. La manière dont ils réagissent aux problèmes que nous avons créés sur la planète, les problèmes avec lesquels aujourd'hui eux doivent grandir, c'est très inspirant. Et nous commençons à utiliser ce cerveau si intelligent pour trouver des solutions innovantes, des solutions scientifiques aux problèmes que nous avons créés. Et aussi pour réfléchir à notre vie quotidienne et à la manière dont nous pouvons rendre notre présence plus légère d'un point de vue écologique. Et la nature est extrêmement résiliente. Aujourd'hui, à Gombe, les arbres sont en train de revenir. L'esprit indomptable des gens est capable aussi de résister et de faire changer les choses. Nous venons de perdre une icône de ce genre, Gorbatchev, qui a mis un terme à la guerre froide. Et je me souviens très bien de la chute du mur de Berlin et de la réconciliation de l'Est et de l'Ouest et de l'horreur de la période communiste. Mais le fait qu'il ait réussi à changer ce système, à mettre fin à la guerre froide, ça paraissait impossible à l'époque. Il paraissait impossible que le mur de Berlin tombe. Il paraissait impossible de mettre un terme à l'apartheid. Et c'est aussi grâce à tous ces héros, ces icônes qui se sont battus, que nous y parvenons.
Nous arrivons à la fin de cette émission, mais est-ce qu'il y a un message en particulier que vous souhaiteriez passer aux jeunes chercheuses, aux jeunes chercheurs qui souhaitent s'engager dans la recherche aujourd'hui ?
J'aimerais partager ce message avec tout le monde, pas seulement avec les chercheurs et les chercheuses. N'oubliez jamais que chaque jour où vous êtes en vie, vous avez un impact sur votre planète. Et vous pouvez choisir quel type d'impact vous avez. Ça peut être des toutes petites choses, comme d'éteindre la lumière, mais quand vous pensez qu'il y a des millions de personnes qui font ce choix, vous pouvez vous rendre compte que chacun d'entre nous a un impact et que collectivement, cet impact est énorme. Et comme je le disais, les gens perdent espoir, de plus en plus de gens perdent espoir. Et il faut qu'on leur en donne, qu'on leur donne des raisons d'espérer. Donc mon message, c'est n'abandonnez pas. Il y a un chemin pour avancer.
Merci Jeanne Goodall pour cet entretien et ce message très précieux.
Okay, thank you.
Un dernier mot pour vous informer que le Jeanne Goodall Institute France vient de lancer une campagne sur la protection de la faune sauvage en France et met à l'honneur 7 projets sur la plateforme participative Bluebees, une campagne qui s'appelle « Le réveil des forêts sauvages ». Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à notre interprète Marguerite Capelle. L'équipe de la Science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Ève Etienne, Garance Prima Anelot, Natacha Demoule, Noémie Naguet de Saint-Vulfran. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. En complément d'écoute, vous pouvez retrouver sur notre fil Twitter @sciencecqfd toutes les sources, études et ouvrages sur lesquels s'appuie cette émission. Une émission qui se podcast à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.